13h-14h,
la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant ici, vous savez qu'on est à l'écoute de ce que vous faites, de vos idées, de votre inventivité. Et depuis bientôt 9 semaines que la crise a commencé, vous montrez que face à des situations contraintes, vous êtes capable de vous adapter et d'imaginer de nouvelles solutions pour contourner les problèmes, pour les affronter aussi. Aujourd'hui, c'est la reprise du travail hein, pour une grande partie d'entre vous. Mais les start-up, les ETI, les PME qui ont tourné au ralenti ne vont pas retrouver des carnets de commandes pleins du jour au lendemain. Alors, comment les aider? Quels sont les soutiens qu'elles peuvent actionner? On va voir ça ensemble avec, comme chaque jour, à mes côtés, dans la team télétravail, Elisabeth Assayag, 50-50 aujourd'hui pour La France bouge.
Oui, bonjour Elisabeth. C'est progressif, tout le monde le déconfinement est progressif, donc moi je suis encore à la maison. Et donc bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Oui, j'explique parce que comme on est en vidéo, qu'on ne vous voit pas, je voudrais qu'on comprenne vous pourquoi vous n'êtes pas à mes côtés. Vous êtes là évidemment, mais vous êtes en télétravail. La CPME l'a dit ce matin, elle est favorable au plan de relance avant l'été. Il faut remettre de l'huile dans le moteur de l'économie si on veut qu'elle reparte. Hein, et ce, dans tous les secteurs, y compris dans les territoires. Vous allez voir, direction Le Havre, où nous attend le maire Jean-Baptiste Gastine. Bonjour.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous avez pris les devants pour ne pas avoir des petites entreprises de votre territoire qui se retrouveraient en situation de mettre la clé sous la porte. Et avec la communauté urbaine, la région Normandie, vous avez mobilisé 1 million d'euros, je crois, pour quelque chose comme 800 entreprises.
Oui, c'est ça. Il s'agit des très petites entreprises, des commerçants, des artisans, des indépendants et qui n'avaient pas pu bénéficier ou qui ne peuvent pas bénéficier du Fonds national de solidarité alimenté par l'État et les régions. Et donc nous, on va intervenir pour les jeunes entreprises qui n'existaient pas il y a un an, pour les reprises d'activité et pour toutes celles dont le chiffre d'affaires a baissé sensiblement, mais pas au-delà de 50%. Et donc on va aider celles dont le chiffre d'affaires a baissé entre 30 et 50%.
Donc celles qui ont baissé, dont le chiffre d'affaires a baissé entre 30 et 50%, et comment est-ce que vous avez réussi à les cibler? Ce sont elles qui vous ont contacté ou à l'inverse, c'est vous qui faites la démarche?
Alors d'abord, beaucoup nous ont contactés pour nous faire part des difficultés qu'elles rencontraient. Et puis on était conscients, évidemment, que cette crise allait se traduire par des difficultés très importantes pour les très petites entreprises, pour les petits commerçants en particulier, évidemment tous ceux qui ne peuvent pas ouvrir, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas un commerce alimentaire. Et donc, avec la région Normandie, en effet, on a mis en place ce dispositif qui vient en complément des dispositifs déjà très larges mis en place par l'État et les régions.
Comment est-ce que vous avez débloqué ces fonds, on peut dire fonds exceptionnels?
Oui, fonds exceptionnels pour répondre à une situation exceptionnelle. Il y a une logique, il était inimaginable que la communauté urbaine, qui a des compétences en matière de développement économique, que la région Normandie, comme les autres régions, qui a des compétences très importantes en matière de soutien aux entreprises, n'interviennent pas pour aider les acteurs qui constituent le tissu économique de base de tous nos territoires. C'est vraiment, on vient aider là les commerçants, les artisans, ils sont par centaines, c'est eux qui animent l'économie territoriale, ils emploient aussi. Donc là, on intervient pour les entreprises de moins de 3 salariés, mais ils sont très nombreux. Donc à la clé, il y a beaucoup d'emplois aussi qui sont en jeu et qu'il faut préserver.
La région Normandie met aussi un prêt, je crois, à disposition, entreprise pré-Covid-19. Combien d'entreprises ont déjà fait une demande, à votre connaissance?
Alors, beaucoup d'entreprises sont déjà aidées par le Fonds national de solidarité. La région Normandie met en effet en place des avances remboursables qui viennent compléter encore ce dispositif. Le dispositif dont j'ai parlé, ce sont des aides directes. Et donc, vous voyez qu'il y a un dispositif très complet. Et s'agissant de l'aide directe aux entreprises par ce fonds local et régional alimenté par la région et par la communauté urbaine, les entreprises pourront s'inscrire sur une plateforme à partir du 18 mai, donc très bientôt maintenant. Pourquoi le 18 mai? C'est parce qu'elles sauront à ce moment-là si elles ont bénéficié du volet 1 et du volet 2 du Fonds national de solidarité. Et comme nous, on vient aider celles qui n'en ont pas bénéficié, il faut attendre jusqu'au 18 mai.
Alors, vous restez en ligne avec nous. Je voudrais qu'on aille dans une autre région et qu'on prenne la direction des Pays de la Loire. Bonjour Christelle Morancé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la région. Vous avez, vous aussi, essayé de trouver des solutions hein, pour aider les entreprises avec la mise en place d'un fonds qui s'appelle le Fonds Résilience. C'est quoi? Une plateforme sur laquelle viennent s'inscrire justement les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier de la solidarité nationale?
Oui, alors le fonds résilience, il a été bâti avec l'ensemble des collectivités de la région des Pays de la Loire, notamment les départements, l'ensemble des intercommunalités, les grandes agglomérations de la région et la Banque des Territoires, pour venir en appui auprès des petites entreprises, toutes les entreprises de moins de 10 salariés, les artisans, les commerçants, l'ensemble de nos TPE qui ne sont pas accompagnés au niveau national, notamment dans le fonds de solidarité national. Donc c'est toutes les entreprises qui sont exclues du dispositif national, auquel d'ailleurs les régions abondent, pour ne laisser sur le bas-côté de la route aucune entreprise. C'était important pour nous de venir en appui. L'objectif, et ça a été dit par votre invité précédent, oui, toutes ces petites entreprises qui font l'attractivité et le développement de nos territoires. L'ensemble économique, je le rappelle, c'est quelle que soit d'ailleurs leur taille, c'est ce qui fait aussi les emplois et le pouvoir d'achat de la population. Donc pour nous, c'était important de venir en appui et en aide grâce à notamment à ce fonds résilience.
C'est donc la Banque des Territoires qui vous soutient derrière et qui assure le financement de ces prêts?
Non, c'est l'ensemble des collectivités. Encore une fois, la région des Pays de la Loire qui met 7,5 millions d'euros, la Banque des Territoires qui met 7,5 millions
d'euros.
Donc
chacun met la main à la poche.
Exactement. Chacun contribue à hauteur de 2 euros par habitant, et ce qui permet d'avoir un effet de levier sur le territoire. Toutes les collectivités, la Banque des Territoires et la région des Pays de la Loire contribuent à ce fonds à hauteur de 2 euros par habitant pour accompagner toutes les petites entreprises sur la région des Pays de la Loire qui ne sont pas accompagnés via le dispositif. Nous, l'objectif, c'était vraiment d'avoir des dispositifs, je dirais, complémentaires avec ceux de l'État. C'est-à-dire de ne pas venir avec des dispositifs qui se feraient concurrence, mais plutôt des dispositifs complémentaires pour aider l'ensemble des entreprises.
Les aides vont de combien à combien
Alors, nous, on a mis en place un système d'avances remboursables, et c'est en fonction du chiffre d'affaires, et donc ces avances remboursables vont de 3 500 euros à 10 000 euros. Alors, c'est un dispositif aujourd'hui qui est lancé depuis le 27 avril. Au bout de 2 semaines, on est aujourd'hui à pas loin de 400 entreprises qui ont fait la demande. Donc, ce sont des entreprises, encore une fois, qui n'ont pas été éligibles au Fonds national de solidarité. Ça peut être une sandwicherie à Saint-Nazaire qui a touché 10 000 euros. C'est une entreprise d'impression à Aubigny-le-Racan dans la Sarthe qui a touché 10 000 euros. Une entreprise de réparation implantée à Lisieux qui a touché également 10 000 euros. La plupart aujourd'hui des aides sont plutôt aux alentours de 10 000 euros, et c'est surtout pour aider la trésorerie de ces petites entreprises.
Vous restez avec nous. Je voudrais qu'on rejoigne Elisabeth Assayag. Elisabeth, on a vu que désormais les PME montaient au créneau pour dire qu'il faut un plan de relance et il faut que ce plan se fasse avant l'été.
La Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, a réclamé au gouvernement aujourd'hui que le plan de relance soit annoncé avant l'été, non pas à l'automne, parce qu'à la fin du mois d'avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait annoncé qu'un plan de relance était en préparation et que sa mise sur pièce ne se ferait certainement pas avant la rentrée, c'est-à-dire pas avant septembre ou octobre. Mais là, ça presse, c'est urgent. Et donc le président de la CPME, François Asselin, l'a annoncé aujourd'hui. Enfin, l'a demandé aujourd'hui, il faut que ce plan de relance porte sur soit avant l'été, soit lancé maintenant. Et il faut qu'il porte sur des secteurs qui génèrent beaucoup de main-d'œuvre, parce que l'urgence aussi se trouve là-dessus, sur ce point précis.
Ouais, vous êtes d'accord, Christelle Morancé, c'est urgent ce plan de relance. Il faut qu'on sache rapidement finalement où vont les entreprises et le tissu économique de notre pays.
Oui, je peux comprendre tout à fait cette demande. Moi, je l'ai même soulevée auprès du préfet de la région des Pays de la Loire quand j'ai entendu Bruno Le Maire évoquer un plan de relance sur la période de septembre-octobre. Il y a eu un premier temps, il a fallu faire face à l'urgence pour maintenir nos entreprises debout, pour éviter un maximum de faillites. Maintenant, il y a un deuxième temps. Alors, il y a le temps actuel, là, qui est le déconfinement. Il faut aussi accompagner les entreprises dans le déconfinement. C'est ce que nous avons fait, notamment dans la distribution de masques, nous, auprès de petites entreprises. Il y a ce troisième temps qui va être très important, c'est le temps de la relance, du rebond, de la reconstruction, ça dépend comment on veut l'appeler, et je pense qu'il y a vraiment urgence. Alors nous, on a une session au mois de juillet, on va faire déjà des propositions, on va voter des actions justement pour accompagner les entreprises dès le mois de juillet, mais je pense que le gouvernement doit aussi répondre à cette relance. Je pense que c'est essentiel de pouvoir accompagner les entreprises au plus vite pour qu'il y ait une relance très rapide sur le monde économique. Encore une fois, le monde économique derrière, ce sont des emplois et derrière, c'est du pouvoir d'achat. Et donc, c'est important de pouvoir les accompagner.
Elisabeth, on est en région avec Christelle Morancet. On était au Havre il y a quelques minutes. En Nouvelle-Aquitaine aussi, la communauté d'agglomération de Bergerac a lancé un plan également. Hein.
Oui, un plan d'achat et de chantier immédiat pour les commerces, les artisans, les entreprises. Les 38 communes de l'agglomération toucheront des subventions pour la moitié des commandes aux entreprises locales. C'est un plan de relance de plus de 1 million d'euros, 1,3 million d'euros précisément pour les entreprises de 38 communes. Ça concerne les artisans, les commerces, les petites entreprises qui sont en chute d'activité à cause du confinement. Et la communauté d'agglomération donc va également aussi suspendre le loyer des entreprises qui sont hébergées par la communauté d'agglomération de Bergerac. Voilà pour les régions et les communes qui se bougent.
Et on va continuer à aller voir justement ce qui se passe dans nos régions. Vous restez avec nous, 13h18 sur Europe 1.
Europe 1.
Les régions se mobilisent, mais vous allez voir que les organismes financiers se mettent aussi en ordre de bataille pour tenter de redonner du souffle à notre tissu économique. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h20 sur Europe 1, quand les chiffres d'affaires de ces deux derniers mois sont proches de zéro, que l'activité redémarre au ralenti, il faut évidemment trouver des solutions pour que les entreprises ne se retrouvent pas en détresse financière. Le gouvernement a certes mis un dispositif en place, dispositif de soutien, mais il n'est pas seul à se mobiliser. Bonjour Renaud Muselier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, président de la région Sud, avec la Banque des Territoires, la Caisse d'Épargne. Vous avez imaginé un fonds que vous avez baptisé ESSOR, E2S'OR. Il cible plus particulièrement, je crois, les structures de l'économie sociale et solidaire. Pour quelles raisons ?
Exact. Alors, on a fait plusieurs fonds. L'idée est la suivante. Il y a eu le fonds de solidarité nationale, avec deux lames. Une première lame qui a été pilotée par l'État, 1500 euros pour les entreprises, et une deuxième lame copilotée État-Région pour les entreprises pour entre 1500 et 5000 euros. Nous avons fait des fonds Covid-résistance en appoint pour une troisième lame, en fait, pour ceux qui étaient passés à travers les mailles du filet, qui font en sorte que l'ajustement avec les banques de territoire et avec les EPCI, c'est-à-dire les différentes collectivités d'agglomération, il y a la possibilité d'aller au plus près du territoire, qui fait en sorte qu'on a touché tous les bars, les commerçants, etc. Mmh. Et il manquait dans le volet général tout ce qui est économie sociale et solidaire. Et donc nous avons mis en place un dispositif spécifique pour cette économie qui est indispensable, me semble-t-il, pour la suite et pour la relance, et que nous avons voulu soutenir. Et nous le faisons, bien entendu, avec la Banque des Territoires, de façon à démultiplier les moyens financiers. Ça représente des moyens à hauteur de 10 millions d'euros.
Oui, parce que son accompagnement à cette économie sociale et solidaire, elle posait davantage de problèmes pour d'autres pans de l'activité économique.
C'est souvent, dans l'économie sociale et solidaire, souvent on parle de social ou de solidaire et peu d'économie, alors qu'en fait ça correspond réellement à un volet économique. Et souvent leurs structures sont des structures qui sont des structures associatives ou qui ont une structure juridique un peu complexe, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas forcément accès à des moyens financiers dans le cadre de l'amortisseur qui est aujourd'hui celui que nous voulons mettre en place dans la région. Nous, la région, on a fait en sorte que, vous voyez, par exemple, le volet touristique, c'est 100%, non, pardon, le volet culturel, 100% de festivals, à moins 715 festivals abandonnés, ben nous avons maintenu la totalité de nos subventions pour qu'il n'y ait pas de faillite dans les compagnies. Ben, pour l'économie sociale et solidaire, c'est exactement la même chose. Ils ont un passage très difficile. Et dans ce passage très difficile, nous parions, nous, sur l'avenir. Nous estimons que c'est une économie absolument indispensable pour le rayonnement de notre région. Et à ce moment-là, on fait un amortisseur pour faire en sorte que la crise ne les mette pas définitivement hors système.
Et ce fonds va permettre des prêts à taux zéro ?
Exactement, ce sont des moyens financiers qui sont mis en place conjointement avec la région et la Banque des Territoires. C'est très simple, vous cliquez, en cliquant vous montez un dossier, il y a trois clics vous avez exactement votre dossier, vous savez à quoi vous avez la possibilité d'accéder, et vous avez de l'autre côté, au téléphone, quelqu'un qui peut vous guider. Donc c'est une utilité super pratique, super simple, et qui permet d'avoir des moyens financiers de prêt à taux zéro, des prêts rebonds, ou une accessibilité pour la trésorerie.
Alors vous restez avec nous, Renaud Muselier, parce qu'on s'aperçoit, Elisabeth, dans cette relance, qu'il y a pas mal de patrons aujourd'hui, on était en train de parler d'économie sociale et solidaire, mais qu'il y a beaucoup de patrons qui militent finalement pour une relance plus verte.
Oui, d'ailleurs au début du mois de mai, on a pu voir une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde, de la part de 92 grands patrons français qui militent pour une relance verte des entreprises. Ils sont membres de l'association Entreprises pour l'environnement. Et il plaide donc dans cette tribune pour une économie plus solidaire. Parmi ces patrons, il y a les patrons d'LVMH, BNP Paribas ou encore Air France KLM qui appellent l'État à mobiliser des fonds pour encourager une économie plus circulaire, hein, parce qu'ils estiment qu'une large part des moyens financiers qui seront prochainement mobilisés pour cette relance, cette relance économique dont nous parlons, aurait tout intérêt à être plus verte pour accompagner la transition écologique avec un souci encore plus affirmé, plus assumé de justice sociale. Donc on est aussi dans cette mouvance de relance plus verte aussi en ce moment.
Oui, on sent effectivement, Renaud Muselier, qu'il y a un cercle vertueux qui est aussi en train de se dessiner.
Bah écoutez, nous, ça nous va très bien parce que nous avons ciblé notre budget depuis près de 3 ans sur ce qu'on appelle une COP d'avance. C'est-à-dire que 30% du budget, près de 500 millions d'euros depuis 3 ans, sont systématiquement ciblés dans la totalité de nos actions pour justement avoir une COP d'avance. Alors ça veut dire quoi une COP d'avance? Ça veut dire qu'on met les circuits courts dans nos lycées. Mmh. Ça veut dire que dans nos lycées, il n'y en a plus un qui est chauffé au fioul, ils sont tous en photovoltaïque. Ça veut dire qu'on a la démarche sur les industries du futur avec les éoliennes en mer, on a le premier dossier qui est prêt. Ça veut dire que nous avons 3 lignes de bus aujourd'hui qui sont soit en électrique, soit en hydrogène dans la région. Ce qui veut dire que systématiquement dans notre champ d'activité, notre champ de compétences, tout est ciblé comme d'avance, de façon à ce que l'on puisse avoir un territoire qui soit protégé ou en tout cas que chacun prenne en considération ses dispositifs. Alors ça va du traitement des déchets au zéro plastique en mer.
Oui, ça touche effectivement tous les pans de l'économie. Restez en ligne avec nous, on va rejoindre si vous le voulez bien Geoffroy Guigou qui est cofondateur et directeur général de United Credit. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez mis en place, vous, des prêts rebonds. Alors, c'est quoi un prêt rebond et à qui ça s'adresse?
Alors, effectivement, United Credit a co-construit, en fait, avec BPI France, une plateforme technologique, donc 100% sur Internet,
oui,
qui permet aux TPE-PME de demander un prêt rebond. TPE-PME de certaines régions. Aujourd'hui, l'offre est disponible pour les TPE-PME de la région Île-de-France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'autres vont suivre.
Oui, ça veut dire que les régions peuvent aussi se rapprocher de vous et vous dire, voilà, on voudrait mettre ce dispositif supplémentaire à destination des entreprises.
Alors nous sommes le partenaire technologique et opérationnel qui a rendu la diffusion de cette offre sur Internet possible. Les régions, elles, sont en relation avec BPI France et elles mettent petit à petit en place cette offre sur tout le territoire. Mais pour parler du prêt rebond, pour répondre à votre question, oui. C'est un prêt par excellence pour permettre aux TPE-PME de réagir à la situation économique difficile dans laquelle elles se trouvent suite au Covid. C'est un prêt souple. Mmh. Il y a quand même 2 ans de différé de remboursement. Hein. Aucun remboursement à faire. Puis après, un amortissement du prêt sur 5 ans.
Et on est aussi sur du taux zéro.
Tout à fait. C'est un prêt qui, grâce au financement des régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, est effectivement à taux zéro pour les entreprises, sans aucun frais de dossier, mais aussi sans sûreté et sans garantie pour le dirigeant d'entreprise. Et bien sûr, c'est un prêt 100% en ligne, qui est extrêmement simple et rapide à demander. On estime qu'il faut 10 minutes pour le demander en ligne. Ensuite, il y a une décision définitive et un accord de financement sous 2 jours maximum, puis signature électronique du contrat de crédit, et 2 jours après, les fonds sont sur le compte de l'entreprise. Et ça, c'est possible aussi grâce à un partenariat majeur avec l'Ordre national des experts comptables.
Et oui, c'est vrai que chacun joue.
La déclaration est réalisée par le dirigeant d'entreprise et l'expert comptable va compléter, valider la déclaration de l'entreprise. Et voilà. Et en mettant toutes ces parties ensemble autour de ce projet de financement pour les entreprises, bah, on arrive à des délais de financement, je crois, inégalés jusqu'ici en France.
Et ça fait un filet de sécurité supplémentaire pour les entreprises qui sont en difficulté en ce moment. Merci Renaud Muselier, merci Geoffroy Guigou d'avoir été avec nous. La France bouge continue, 13h29.
Europe 1.
La plupart des commerces sont restés rideaux baissés pendant deux mois. Comment reprendre une activité sur fond de trésorerie tendue? Les villes, là aussi, tentent d'oxygéner financièrement les quartiers. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Restez avec nous sur Europe 1, 13h31. Nous sommes ensemble pour parler des centres-villes, qui sont en train de s'animer de nouveau. En tout cas, on l'espère, hein, les boutiques rouvrent, même si l'activité ne sera pas débordante dans la plupart des magasins. Après deux mois de fermeture, c'est vrai que les trésoreries sont tendues. Pour aider les commerçants à retrouver un peu d'air, il y a pas mal de choses qui sont envisagées. Elisabeth, il y a de nombreux commerces qui vont finalement, à partir d'aujourd'hui, pouvoir accueillir du public.
Oui, il y a beaucoup de commerces qui vont pouvoir accueillir du public, sauf les bars et les restaurants, hein, on le sait, ça il va falloir attendre un petit peu. Par exemple, à La Roche-sur-Yon, pour en Vendée, pour les aider à redémarrer leur activité dans des conditions sanitaires optimales. Tous les commerçants, ils ont mis en place un starter kit pour tous ceux qui le souhaitent. Il est gratuit, il est disponible sur inscription et c'est un kit qui se compose de 3 masques, d'un flacon de gel hydroalcoolique, d'affiches sur les gestes barrières que les commerçants pourront afficher donc sur la devanture de leur magasin, des bandes adhésives à poser au sol pour le respect des distances, une aide financière pour l'acquisition d'un écran de protection en plexiglas, 50% avec une réduction de 50%. Donc voilà, ce sont des petites choses des grandes choses qui vont pouvoir aider les commerçants à avoir toutes les conditions réunies pour pouvoir de nouveau accueillir du public.
Et vous allez voir que les villes sont vraiment là, hein, pour aider ces commerces. C'est le cas à Châlons-en-Champagne. Bonjour Benoît Paru.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez souhaité mettre en place, vous, une opération de relance avec des bons d'achat pour acheter à Châlons, un site même qui est dédié complètement.
Effectivement, on a essayé de jouer ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'un consommateur va acheter un bon d'achat, il va payer 20 euros. Ce bon d'achat aura une valeur faciale de 25 euros, donc il pourra dépenser 25 euros. Mmh. Et c'est la mairie qui paye la différence entre 20 et 25, ce qui nous permet de pousser les consommateurs chalonnais à retourner dans leur magasin physique, notamment de centre-ville, pour faciliter la relance. Grosso modo, on a une relance pour les professionnels et du pouvoir d'achat pour les consommateurs. Et on se dit qu'en mélangeant le pouvoir d'achat mais à consommer local, on va pouvoir remettre de l'activité et du chiffre d'affaires dans les commerces du centre-ville notamment.
Alors je crois que c'est l'Union commerciale, industrielle et artisanale qui a eu l'idée avec vous de mettre ce plan en place. C'était une évidence finalement pour justement réinjecter de l'argent dans les commerces, hein, qui sont restés pendant deux mois quasiment rideau baissé.
En fait, notre idée, elle est double. Un, il nous fallait les aider pendant la période de fermeture. Et donc, on a mis en place un système qui s'appelle Direct Trésor pour les aider par de la trésorerie à passer la période de fermeture. On s'est dit, une fois la fermeture, une fois la réouverture commencée, il faut à ce moment-là qu'on réinjecte pas forcément de la trésorerie, mais du chiffre d'affaires et donc pousser les consommateurs locaux à consommer justement localement et peut-être à déserter un peu les sites internet pour retourner dans le commerce physique, avoir en gros un geste citoyen. Enfin, en même temps, on sait que le geste citoyen, s'il s'accompagne d'un peu de pouvoir d'achat, il est plus facile à exercer.
Ah oui, et si tout est consommé, vous aurez réinjecté l'équivalent d'un million d'euros dans l'économie locale. Justement, Elisabeth, pour aider les commerces, il y a Sauvons nos commerces qui continue.
Ah oui, hein, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Hein. Sauvons nos commerces, ça continue jusqu'au 30 juin. Je vous rappelle ce que c'est, on en a parlé dans La France bouge. Les consommateurs achètent des bons pour consommer à la réouverture des commerces. Hein. Là, je vous parle surtout des bars, des restaurants. Et comme comme ça, le commerce va recevoir un peu de trésorerie pour tenir hein, jusque-là, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la trésorerie qui va leur permettre de ne pas sombrer dans les dépôts de bilan ou dans la faillite.
Vous restez avec nous, Benoît Apparu. Je voudrais qu'on traverse l'Hexagone, direction Nîmes, où nous attend Sophie Roule. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes adjointe au maire délégué au commerce. Vous aussi, hein, vous avez mis en place un plan d'action pour aider les commerces. Vous allez notamment les exonérer de taxes. Et il y a tout un dispositif global qui a été échafaudé.
Oui, tout à fait. Donc le maire a souhaité, donc pour aider les commerces et à la reprise, hein, mettre en place un plan d'action au coût global de quand même 4 200 000 euros.
Ah oui.
Donc voilà, c'est énorme hein, sur la période de 6 mois qui arrive. Donc on a essayé de vraiment de toucher un petit peu tous les leviers qui nous aideraient justement à faire venir les personnes en centre-ville et aussi exonérer, pas reporter, hein, mais exonérer certaines charges, par exemple sur le domaine public, les terrasses, des commerces, des bars et restaurants seront exonérés pendant 6 mois. L'occupation du domaine public aussi par rapport aux chantiers provisoires. Vous savez que bon, la ville de Nîmes est en travaux oui. Perpétuels. Du coup, aussi les entreprises qui vont venir travailler en ville seront exonérées aussi de taxes sur le domaine public, notamment par rapport aux échafaudages, à la mise en place de bennes, ce genre de choses.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez décidé de le faire sur une période assez longue, hein, 6 mois, pour justement qu'ils puissent retrouver un peu de souffle, finalement, que les trésoreries soient un petit peu moins tendues. Et vous avez même décidé d'aller plus loin, parce que les locaux municipaux qui sont loués aux commerçants, pour le coup, là, vous ne percevrez pas les loyers.
Oui, tout à fait. Tous les locaux appartenant à la mairie de Nîmes sont exonérés, hein, non pas reportés, hein, mais exonérés de loyer pendant une durée de 6 mois. Donc, ça concerne évidemment pas mal de locaux commerciaux, notamment les halles de Nîmes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on oui. a des halles couvertes très agréables. Donc là, le maire a décidé d'exonérer charges et loyers de ce marché couvert.
Il y a également des dispositions qui ont été prises pour la sortie du confinement. On parlait tout à l'heure avec Elisabeth de gel, de masque. Là aussi, vous avez fait un effort en direction des commerçants.
Alors tout à fait, là, depuis hier matin jusqu'à ce soir, on doit distribuer pour 1700 commerces de la ville de Nîmes gratuitement hein, 50 masques à usage unique, un distributeur de gel hydroalcoolique avec sa recharge et le jeu d'affiches d'informations relatives à la diffusion du message de prévention. Donc ça, tous les commerces de la ville de Nîmes sont concernés et donc la distribution est en train d'être faite. C'est un coût important, hein, ça correspond à 600 000 euros et voilà, la direction du commerce de la ville de Nîmes a monté une organisation exemplaire et voilà, dans ces 2 jours, les 1700 commerçants devraient être touchés par cette mesure.
Merci Sophie Roule à Nîmes, merci Benoît Apparu à Châlons en Champagne. On reste ensemble bien sûr en direct sur Europe 1. La France bouge continue, 13h39.
Europe 1.
Et vous allez voir que les fonds d'investissement aussi sont à la rescousse pour continuer à injecter des liquidités dans les entreprises, mais pas seulement, pour les aider aussi à trouver des solutions. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h41 sur Europe 1. Comment soutenir l'économie quand il n'y a pas de rentrée d'argent? Il faut pouvoir compter évidemment sur ceux qui ont les cordons de la bourse, qu'ils continuent à faire des paris financiers, qu'ils soutiennent hein, tout simplement. C'est comme ça qu'est né les VC Hours. 17 fonds d'investissement se sont associés pour conseiller bénévolement les startups qui sont en ce moment en train de traverser la crise. On est heureux d'accueillir, vous la connaissez évidemment puisqu'elle est une de nos expertes dans La France bouge habituellement, Clara Audry. Bonjour Clara.
Bonjour Raphaël.
On est ravis de vous retrouver, associée chez Cap Horn qui est un fonds de capital risque et vice-présidente de France Digital. Dites-moi, c'est inédit ce mouvement collectif, c'était une évidence de se rassembler au niveau des fonds d'investissement pour pouvoir agir ensemble?
Tout à fait. Alors, une initiative inédite, hein, la crise, tout comme la crise que nous vivons, Hein, elle bouleverse nos vies quotidiennes, oui. Malheureusement également l'économie. Et en effet, c'était une évidence, notamment pour Cap Horn et pour les 18 autres fonds de Venture Capital, de s'associer à ce mouvement et de proposer notre aide aux entrepreneurs et aux startups.
C'est-à-dire votre aide qui se concrétise comment?
Oui, donc du coup, donc l'action du gouvernement est bien sûr cruciale, mais il n'en demeure pas moins essentiel, et vous en avez parlé au niveau des régions, que l'ensemble des acteurs de l'écosystème se mobilisent. Et c'est dans cette perspective d'entraide générale que 19 fonds aujourd'hui, hein, le nombre de fonds d'investissement en capital innovation a augmenté. On a décidé de donner de notre temps depuis la fin du mois d'avril à titre bénévole pour conseiller l'ensemble des startups qui se trouvent confrontées à des difficultés et qu'elles soient ou non financées. Donc on s'adresse à toutes les startups. Peu importe leur taille, leur maturité, leur secteur d'activité, elles ont la possibilité de prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller VC Hours, VC pour Venture Capital.
Oui.
Et il suffit de se rendre sur le site VC Hours Booking et de choisir un créneau pour nous rencontrer, alors par visioconférence ou par téléphone.
Et alors qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil, Clara? Quels sont les types de questions qui reviennent en ce moment?
Les types de questions qui reviennent. Donc, c'est vraiment très large et à la main vraiment de l'entrepreneur qui nous contacte. Il peut s'agir de développement ou d'adaptation d'un produit ou d'un service. Il peut s'agir de mesures pour préserver sa trésorerie ou encore mettre en place éventuellement des mesures de sauvegarde de l'activité. À date, après quelques semaines, les thèmes qui remontent beaucoup sont les difficultés de lancement d'une prochaine levée de fonds. Donc ça, on essaie d'aiguiller. Les problèmes de trésorerie, sans surprise, les pertes de clients, malheureusement, mmh. Et puis les questionnements un peu plus long terme sur la pertinence de leur offre au regard des changements que l'on voit dans l'économie.
Oui, et des changements effectivement qui sont en train de se dessiner. Justement, Elisabeth, il y a des startups qui tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres entreprises au cœur de cette crise.
Alors déjà, souvent les startups sont digitales. Donc par essence, c'est plus pratique de pouvoir poursuivre son activité quand l'activité est essentiellement digitale. Même si 80% d'entre elles ont vu leur chiffre d'affaires baisser pendant la crise, le tourisme, la pub, la publicité, la restauration, la mobilité sont les secteurs les plus touchés. Mais l'ensemble, comme tout est quasiment devenu numérique, avec le e-commerce, la e-santé, les autres startups, les fintechs ont plutôt tiré leur épingle du jeu. D'ailleurs, pour venir en aide aux startups fragilisées par la crise, souvenez-vous, hein, fin mars, un plan de 4 milliards d'euros avait été annoncé par le secrétaire d'État Cédric O en partenariat avec BPI France.
Oui, c'est vrai que c'est tout un maillage finalement qui va permettre aux entreprises de continuer à regarder devant et à s'inscrire dans un futur proche et un peu plus lointain. Clara, je vous propose de rester avec nous. Je voudrais qu'on accueille ensemble Thierry Chaumartin, qui est président de l'association Au Seuil de l'Océan. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Raphaël, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez, décidé de mobiliser votre association pour aider les TPE et PME qui ne seront pas, ou qui ne sont pas, ou qui n'étaient pas d'ailleurs, éligibles au fonds de solidarité, celles qui existent en fait depuis le 1er février. C'est vrai qu'au début du confinement, elles étaient hors des radars du gouvernement.
Oui, tout à fait. Mais en fait, nous, notre mobilisation, elle s'est faite par un exemple concret. Je peux peut-être nommer le restaurant,
bien sûr.
Oui, alors c'est l'auberge Les Rives de Vilaine à Marzan, près de la Roche-Bernard, dont je suis le bailleur. Et en fait, ce sont des gens qui ont ouvert dès le début du confinement, pratiquement le 2 mars, et ils ont eu une fermeture le 14 mars. Actuellement, ils essayent de survivre avec des pizzas, des plats emportés, mais bon, c'est très compliqué pour eux. Ils ne sont pas éligibles ni à l'aide de l'État, ni aux prêts bancaires, rien. Donc ce sont des gens qui pour la plupart, qui sont dans ce cas-là, ont tout investi, tout refait. Ce restaurant avait eu deux mauvaises aventures avec les locataires précédents, qui avaient rendu le restaurant inexploitable, ruiné, inexploitable. Et donc ils ont tout mis dedans. Ils avaient un restaurant avant, ils ont vendu une maison, ils ont tout investi dans ce restaurant. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est très compliqué pour eux.
Ouais, donc vous êtes parti d'un exemple concret que vous connaissiez, en vous disant, oui, mais cette situation-là, probablement qu'ailleurs, il y a d'autres cas. Vous avez donc décidé de lancer une pétition. Je crois que vous avez récolté 19 000 signatures en trois semaines.
En trois semaines, oui. 19 000 signatures en trois semaines. Plus de 1 000 personnes qui se sont exprimées là-dessus. Ça prouve bien que bon, l'opinion publique est sensibilisée par ça. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de restaurants qui sont dans ce cas-là.
Vous êtes en contact, bien sûr, et vous êtes en contact avec Olivia Grégoire qui est à la commission des finances de l'Assemblée.
Non, je suis pas tout à fait en contact. Hein. Je suis en contact avec un sénateur,
oui,
qui lui a remonté mes préoccupations directement au Sénat. Et j'ai été informé qu'Olivia Grégoire a annoncé sur Capital qu'en fait le Parlement, dans le cadre du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020, un décret devait être publié pour le 24 avril ou le 27 avril qui devait officialiser la bonne nouvelle pour ces petites entreprises encore naissantes potentiellement avec un effet rétroactif.
Oui.
Rétroactif, pardon. Nous sommes le 11 mai et le problème c'est que nous n'avons qu'une nouvelle de ce fameux décret.
Clara Audry, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces start-up, ces entreprises qui démarrent et qui se retrouvent effectivement dans une situation un petit peu compliquée ?
Écoutez, un ensemble de dispositifs a été mis notamment par la BPI et le gouvernement. Je pense au prêt garanti par l'État qui est à discuter avec son partenaire bancaire et qui permet en fait une garantie à 90% par l'État. Vous avez également le prêt de soutien à l'innovation qui permet aux PME, TPE ou ETI également de trouver une aide financière dans cette période un peu houleuse. Le prêt à tout qui est également destiné aux entreprises qui ont au moins 12 mois de bilan, qui c'est d'une durée de 2 à 3 ans avec des différés de remboursement, qui doit aussi être associé à un concours bancaire. Donc autrement dit, il y a tout un tas de dispositifs. Après, c'est vrai que pour les sociétés très jeunes qui n'ont pas de bilan,
ouais, c'est plus compliqué.
Ça peut être plus compliqué et malheureusement, j'ai envie de dire, il faut attendre un peu que l'orage passe pour espérer des jours meilleurs. Il y a quand même des aides, il y a un pré-rebond également avec les régions qui pourrait être intéressant. Donc allez voir un petit peu ses partenaires bancaires, ses partenaires à la région pour essayer de débloquer quelques aides qui permettent de tenir. Il y a aussi les reports de charges sociales si vous avez des salariés mais pas de chiffre d'affaires, bien entendu, et des remboursements de crédit impôt recherche,
un maillage,
crédit impôt innovation.
Un maillage, voilà, qu'il va falloir mettre en place pour que l'on s'y retrouve. Elisabeth, dans ces aides, et ce sera le mot de la fin, il y a aussi, ne les oublions pas, les aides administratives pour se relancer.
Oui, d'ailleurs, il y a l'entreprise CoClap, qui est une entreprise qui accompagne tous les projets professionnels, qu'on soit entrepreneur ou salarié, qui lance là un dispositif d'accompagnement spécialement dédié aux TPE pour les aider à effectuer simplement, facilement toutes leurs démarches administratives, parce que c'est un service à distance, hyper facile à mettre en place. Et c'est important, les démarches administratives, parce que parfois on peut perdre énormément de temps avec tous les papiers à remplir, tous les papiers liés à la crise actuelle. Et là, justement, avec cette entreprise, ça peut être beaucoup plus simplifié.
Merci Elisabeth pour toutes ces précisions. Merci à Thierry Chaumartin qui était avec nous, président de l'association Au Seuil de l'Océan, et à Clara Audry, qu'on espère retrouver très vite évidemment dans les studios d'Europe 1, associée chez Cap Horn, fonds de capital risque et vice-présidente de France Digital. Elisabeth, nous on se dit à demain bien sûr.
Portez-vous
nous
bien.
Parlerons restauration collective, et oui,
il
faut bien déjeuner.
Évidemment.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h53, c'est l'heure de retrouver comme chaque jour sur Europe 1 en direct l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez. Maître, bonjour.
Bonjour Raphaël, voilà une nouvelle semaine qui commence.
Exactement, une nouvelle semaine où vous allez évidemment répondre aux questions que nous posent pour vous les auditeurs au 3921 mais aussi sur le hashtag Radio Ouverte. C'est le cas de Gérard. Gérard explique que son entreprise a mis en place très peu de mesures barrières mais il est obligé d'y retourner. Quels sont mes droits, vous demande-t-il Roland ?
Et oui, tout le monde a un petit peu peur. Les employeurs, eux, se retrouvent avec un casse-tête, évidemment, qui est celui d'organiser et de mettre en place aujourd'hui tout le protocole sanitaire qui a été dévoilé la semaine dernière, qui est en fait un espèce de cahier des charges qui a été donné aux employeurs. Il n'y a rien véritablement de contraignant, si ce n'est que, parce qu'il n'y a pas de sanctions, si ce n'est qu'on leur donne finalement les moyens de respecter ce qu'on appelle leur obligation de sécurité, leur obligation de protection des salariés et de la santé des salariés au travail. C'est ce que dit ce protocole national de déconfinement. Et évidemment, c'est un casse-tête pour eux parce que parfois, ils n'y arrivent pas, parce que l'entreprise ne se prête pas à tout ce qui a été indiqué. Vous savez, les 4 mètres carrés d'occupation, la distanciation de 1 mètre parfois avec les clients ou les collègues, le sens de circulation dans l'entreprise. Donc parfois, c'est difficile et c'est pour ça qu'il a été indiqué que dans ce cas-là, il fallait véritablement protéger les salariés avec des masques et les équiper pour cela. Et puis il y a le salarié qui lui arrive sur l'entreprise et comme Gérard et dit finalement mon employeur n'a pas pourvu à son obligation de sécurité, n'a pas respecté tout ce qu'on nous dit là depuis plusieurs jours sur ces fameuses mesures de sécurité et est-ce que j'ai le droit finalement de ne pas aller travailler. Alors il faut savoir que si les employeurs sont contraints de mettre en place tout cela par la loi, encore une fois parce que dit le code du travail indépendamment de ce protocole sanitaire. En tout état de cause, il faut que le salarié arrive à démontrer qu'il y a un péril imminent. Soit il est dans une situation de vulnérabilité, Gérard, et auquel cas il peut parfaitement demander de nouveau un arrêt maladie parce qu'il ne pourra pas aller travailler dans ces conditions. Soit s'il n'arrive pas à démontrer qu'il y a cette difficulté, il faut qu'il alerte les syndicats, il faut qu'il alerte l'inspection du travail. Il y a plusieurs décisions qui ont déjà été rendues avec le Covid. On en a parlé sur Amazon et on en a parlé également pour Renault qui vient d'être condamné il y a quelques jours par le tribunal judiciaire du Havre à suspendre la production dans une de ses usines. Le juge a estimé qu'il y avait véritablement des risques sur place. Donc cela veut dire que le droit d'alerte existe pour Gérard et l'inspecteur du travail, les syndicats, les représentants du personnel sont là pour l'aider.
Très bien. Réponse complète, effectivement. J'espère que Gérard pourra effectivement prendre les bonnes décisions et faire valoir son droit auprès de son entreprise. Sarah, une question pour vous également. Elle en peut plus, Sarah, et je pense qu'elle n'est pas la seule à être dans cette situation de son appartement. Est-ce qu'elle a le droit, Roland, d'aller en visiter et si elle trouve vite, de déménager ?
Alors là, on savait que pendant le confinement, le déménagement, c'était très compliqué. Il fallait vraiment justifier que le bail était venu à expiration, que le déménagement avait déjà été organisé avant les mesures de confinement. Et dans ce cas-là, de façon très exceptionnelle, les déménagements pouvaient intervenir. Aujourd'hui, la règle est la suivante. Soit Sarah veut déménager seule, elle veut se faire aider par des amis. Il faut qu'elle soit, attention, moins de 10 personnes. Et auquel cas, elle pourra le faire si on reste dans le rayon de 100 km. Il n'y aura pas de difficulté pour pouvoir déménager. Soit Sarah veut faire appel à une entreprise de déménagement et ce serait peut-être mieux pour elle parce que dans ce cas-là, il faut savoir que les entreprises qui rouvrent aujourd'hui, comme toutes les entreprises qui ont été autorisées à rouvrir, eh bien elles ne sont pas assujetties aux 100 km. Donc ils peuvent parfaitement, l'entreprise de déménagement peut avec Sarah organiser le déménagement de Sarah à plus de 100 km de son domicile. Il faut juste qu'elle puisse justifier effectivement d'une nouvelle de son acte d'achat ou de la prise de location de l'appartement. Et puis l'entreprise, elle, devra également avertir peut-être les autorités locales, policières, pour savoir s'ils pourront bien garer le véhicule pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Mais a priori, le motif impérieux du déménagement à plus de 100 km avec une entreprise professionnelle, il n'y aura pas de problème. Alors maintenant, si Sarah n'est pas dans ce cas-là, ne veut pas nous compte ne souhaitait pas prendre une entreprise et souhaitait le faire elle-même et que son logement est à plus de 100 km, là, il faudra qu'elle se rapproche de son propriétaire pour lui demander de continuer à occuper son logement. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème, même si le bail a expiré. On peut parfaitement signer une nouvelle convention temporaire d'occupation. Et puis, en sachant que Sarah, de toute façon, son propriétaire ne pourra pas l'expulser, puisque la trêve hivernale a été prolongée jusqu'en juillet.
Merci Roland, on se retrouve demain, même heure, juste avant 14h, et nous dès midi sur Europe 1. Dans un instant, ne bougez pas, Christophe Ondelat arrive.